Nous prions avant de lire dans les Écritures. Tu nous demandes, Éternel, de parler librement et avec joie. Et nous balbutions d'ignorance. Tu veux nous faire collaborer à ton œuvre d'amour et nous nous laissons accabler par nos insuffisances. Mais que ton esprit souffle en nous et nous serons transfigurés à l'image de ton Fils. Parle-nous, nous t'écouterons. Amen. Je vous propose de lire dans l'Évangile selon Jean un extrait du dernier discours de Jésus à ses disciples. Ce sera au chapitre 15, les versets 1 à 12. Je suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Et vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi, en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est une belle image que celle de la vigne. Elle est présente dans la Bible hébraïque, où elle représente la vigne, le peuple d'Israël, par exemple dans le livre du prophète Ésaïe ou dans le psaume 80. La vigne est aussi un symbole de prospérité, de bénédiction et d'espoir, et également un symbole de paix. La paix qui permet à l'homme, comme l'écrit le prophète Michée, de s'asseoir dans sa vigne, sans être troublé par la guerre, et de cultiver sa vigne pour en boire le vin, le bon vin qui réjouit, le vin de la fête à partager. Oui, il y a de la joie dans l'image de la vigne. Mais c'est d'une autre manière que celle de la Bible hébraïque que Jésus la reprend. Il dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ». C'est ce qu'il dit à ses disciples lors du dernier repas qu'il partage avec eux, avant d'être arrêté, avant d'être condamné, avant d'être mis à mort. Un dernier discours comme un testament et cette image qui conduit à la joie, en cette heure pourtant grave, qui conduit à la joie pour cette heure-là, et pas pour plus tard, dans un futur inconnu. Que votre joie soit complète, dit Jésus à ses disciples. Mais quelle peut être cette joie Pour eux, les disciples qui sont déjà clairement avertis que Jésus va être livré, trahi, condamné et élevé sur la croix, crucifié. Et quelle est cette joie pour les humains éprouvés, inquiets, angoissés devant un présent très troublé et un avenir bien incertain. La joie commence avec cette image de la vigne. Pour dire ce qu'est Jésus-Christ, et celle des sarments pour dire quelque chose de nous. Vous savez, des sarments, des petites branches poussées sur un cep et qui vont porter le raisin. Alors certes, nous savons ce qui nous précède, ce qui nous porte, de quelle vigne nous sommes les sarments, tous et tous, la famille, la culture, l'éducation, les expériences, les choix. Et ce que nous portons, nos fruits, nous ne pouvons pas toujours le savoir et le dire. D'autres peuvent le faire certainement mieux que nous. L'image de la vigne et des sarments parle de nos vies, avec leurs heures, bonheurs et malheurs, vies qui puisent dans ce qui les porte, de quoi leur donner forme et sens. Mais voici qu'avec Jean, nous pouvons nous comprendre comme précédés et portés par le Christ. Il est question alors d'une autre qualité de vie et d'une autre ressource pour nos vies que celle de nos histoires et de nos décisions. Nos vies alors ne dépendent plus de la détermination des récits du passé ou de nos échecs et de nos succès, de notre caractère ou des circonstances. Et que notre vie ne dépende plus de cela, eh bien c'est une bonne nouvelle. Et c'est une joie. L'image de la vigne, plus précisément du pied de vigne, du cep, pour dire ce qu'est le Christ, offre une nouvelle dimension au sarment que nous sommes. Car la sève qui passe de la vigne au sarment nourrit autrement que par des héritages ou par des réalisations personnelles ou collectives. Cette sève, dont nous pouvons dire qu'elle est esprit, nourrit les sarments de vie et d'amour, dit Jésus. La vie de la vie vivante, et l'amour qui fait aimer. Et c'est ainsi une conscience renouvelée qui est donnée aux sarments que nous sommes, conscience d'eux-mêmes et du monde, de leur place et de leur devenir. Car si Jésus parle de Dieu comme du vigneron qui taille, ce n'est pas pour donner de Dieu une image effrayante, mais pour affirmer encore une fois la volonté bonne d'ouvrir, d'offrir une dynamique de transformation vers le bon qui caractérise le Dieu créateur. Ce qui en nous est destructeur et stérilisant peut bien disparaître. Il faut que ce qui en nous est puissance de mort et pour la mort disparaisse pour que la vie demeure en avant de nous, où il y a de la taille à faire. Et Dieu y participe par sa parole, par son esprit, par l'évangile, par le Christ, puissance de transformation. Et dans cette taille, nous ne perdrons rien. Nous ne perdrons rien de celui ou de celle que chacun est appelé à devenir, cet humain qui est espérance de Dieu. La gloire de Dieu, dit Jésus, ce n'est pas le nombre de chrétiens dans le monde, ni la conservation farouche d'une série d'affirmations doctrinales. La gloire de Dieu, c'est l'amour, son amour pour nous et notre amour les uns pour les autres. Et c'est pourquoi l'amour est un commandement. En tant que l'amour est, en Christ, fondement d'existence et des relations par lesquelles nos vies deviennent existence, c'est-à-dire portées au-delà de nous-mêmes vers autrui. Jésus, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, vient de le montrer en lavant les pieds de ses disciples, en leur donnant part à sa vie, en déposant sa propre vie pour eux. Et c'est aussi en cela que nous pouvons comprendre que ces paroles de Jésus ne parlent pas exclusivement des disciples confessant qu'il est le Christ dans des termes approuvés par les Églises. Tous ceux dont l'existence est fondée, enracinée, accrochée à l'amour, sont ces sarments qui produisent du fruit, en aimant et en faisant passer dans leur relation la joie d'aimer. « Demeurez en moi, insiste Jésus. Demeurez sur le cep, sur la vigne qu'il est. Et ce demeurer-là ressort de notre décision. Et il prend des formes diverses. Méditer, lire et interpréter les Écritures, prier et faire silence, chercher, s'examiner soi-même et se relier à la source intérieure. Et puis se laisser aimer et laisser grandir en soi la capacité à aimer. Comme Jésus a aimé, d'un amour qui veut que l'aimé vive vraiment, d'un amour qui ne se fait pas payer, d'un amour qui est grâce et qui libère, qui fait grandir et vivre, un amour qui est source de joie. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, dit Jésus. C'est donc que la joie complète est la somme de deux joies, la nôtre et celle de Jésus-Christ. Car nous ressentons de la joie, des joies humaines, des joies d'expérience, des joies de rencontre, de partage, des joies qui surviennent de l'accord entre nous-mêmes, ce qui nous habite et nous meut profondément, et une situation ou une autre personne ou d'autres personnes. Alors déjà, nous comprenons que notre joie ne tient pas qu'à nous. Nous ne la fabriquons pas, nous ne la contrôlons pas, nous l'éprouvons parce que nous la recevons. Et nous recevons aussi en nous la joie du Christ. Une autre joie est déposée en nous par celui qui met en nous sa joie, comme il met en nous sa confiance, comme il met en nous son espérance. La joie naît et grandit et devient complète dans une relation, dans des relations, toujours. La joie d'autrui, la joie du Christ, la joie de Dieu, l'origine de la joie complète, c'est l'autre. Ainsi, la joie de Jésus repose dans la relation entre Dieu et lui. Et cette relation est indestructible, et la joie, alors, l'est aussi. La joie de Dieu, racontent les évangiles, est exprimée lors du baptême de Jésus, lorsque la voix du ciel dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je prends plaisir ». Une parole dont témoigne toujours chaque baptême, une parole posée sur chacun qui dit la joie de Dieu pour chacun. C'est ainsi que la joie de Dieu nous précède et nous environne. Déposée en Jésus-Christ, elle nous est donnée avec, comme vie divine en nous. Elle résonne dans chaque bénédiction qui affirme, d'une manière ou d'une autre, « Il est bon que tu existes ». Parole de bénédiction qui nourrit la jubilation d'exister. Mais nous comprenons bien là qu'il n'est pas question de nier les épreuves, les difficultés, la souffrance, parce qu'il n'y a pas d'existence sans souffrance. Mais la parole de bénédiction, d'amour, de grâce, invite, porte à s'enraciner, à demeurer dans l'amour, et non dans la souffrance, même lorsque nous l'éprouvons. Sinon, l'humain se replie et se pétrifie. De même que la parole de bénédiction exhorte à la compassion, à souffrir. C'est-à-dire, la compassion, c'est souffrir avec ceux qui souffrent, sans chercher à se préserver soi-même. Alors non, la joie ne supprime pas la souffrance. Et la joie n'est pas supprimée par la souffrance. Cette joie qui naît du « oui », répondu au « oui » de Dieu, la joie qui naît du oui à la vie, toute la vie. Lorsque nous disons oui à la vie, le souffle qui nous fait prononcer ce oui vient de plus loin que nous, d'avant nous, puisqu'il est accord à Dieu. Et les résonances de cet accord sont incommensurables et s'y déploient toute une polyphonie dont l'évangile de Jean est une des voies de joie. Notre joie est complète grâce à la joie déposée en nous par un autre, Dieu, le Christ, qui est l'amour de Dieu, et d'autres avec lesquels nous sommes en relation d'amour. Il n'y a de joie complète que dans le champ des relations. Et c'est ainsi que la joie est généreuse, prodigue, vaste, spacieuse et même infinie, puisqu'elle est vie du Christ en nous. Autrement dit, la joie est inclusive. Elle dispose à l'accueil, à l'hospitalité. Elle n'exclut personne, ni les riches, ni les pauvres, ni les bien portants, ni les malades, ni les incroyants, ni les autrement croyants. C'est que Dieu n'exclut pas. S'il élit, pour reprendre un terme de la théologie, ce n'est jamais l'un contre l'autre. Il n'y a pas un vainqueur, un gagnant et un vaincu, un battu, comme celles et ceux dont les noms seront égrenés ce soir. Nous le signifions lorsque nous prenons la scène. Il y a une place pour tous dans le cercle du partage, ce cercle qui parle de l'humanité, espérance de Dieu. Nous le signifions lors des baptêmes, particulièrement les baptêmes des petits-enfants qui ne comprennent rien à ce qui se passe, à ce qui se dit, et dont nous ne savons pas du tout quelles personnes ils deviendront. Cela va bien à l'encontre de l'ordre du monde, dont l'exclusion est l'un des ressorts et qui réduit les relations entre les personnes à une instrumentalisation qui néglige la rencontre et la reconnaissance. Mais en ce qui concerne la joie, la foi, l'Évangile, refuser à certains la vie vivante, la vie en abondance, c'est seulement manifester qu'on n'y est pas soi-même entré. C'est manifester que la peur, la haine, le ressentiment ont étouffé l'aspiration intérieure à la joie, ont empêché l'ouverture au don de la joie, de l'amour et de la vie. Certainement, il nous faut du temps, de l'écoute, de la réflexion, de la discussion, de la méditation, pour que notre joie soit complète, pour que nous recevions cette joie qui nous est donnée d'un autre. L'évangile de Jean, mais les trois autres évangiles aussi, nous y aident en travaillant notre conscience, notre lucidité, notre confiance. L'amour, la joie, la vie sont profondément liés, de même que sont intrinsèquement liés l'amour de Dieu pour chacun et l'amour de chacun pour autrui, de même que sont liées la vie du Christ et la vie vivante de chacun, la joie du Christ et notre joie complète. Amis, frères et sœurs, la vérité de l'être humain, c'est d'être aimé et d'aimer. Et cette circulation d'amour, c'est l'énergie et la puissance de la joie complète. C'est une grâce, c'est un effet de la grâce. D'ailleurs, en grec, la joie se dit chara et la grâce charis. Les deux mots ont la même racine. Oui, la joie et la grâce viennent de la même source, dans le même don, la même dynamique, le même élan. Et c'est pourquoi, oui, notre joie demeure. Amen.